Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue dans cet écrin du petit matin. On est très heureux de vous accueillir. On espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 27 janvier et journée spéciale sur Europe 1 consacrée au pouvoir d'achat.
Oui, c'est le sujet d'inquiétude, la préoccupation numéro une des Français. On voit tous ici ou là que les prix augmentent. Et bien, c'est cette réalité qu'on va retranscrire à travers nos reportages. On va aller au plus près de chez vous avec nos correspondants, illustrer cette vie chère, mais aussi la questionner à travers notamment nos invités tout au long de cette matinale spéciale.
Et à ce sujet, Julien, quel est le plus gros poste de dépenses des Français selon vous?
Ça, je sais, c'est le logement.
Exactement. On ne peut rien vous cacher. Il peut représenter
Sait parce qu'on le vit.
Oui, c'est ça. Plus de 40%. Il peut représenter plus de 40% du budget d'un foyer. C'est beaucoup.
Mais il faut dire que le prix des logements a presque doublé en 20 ans. C'est ce que montrent les derniers chiffres de l'OCDE.
Et aujourd'hui, il s'agit du poste de dépenses le plus discriminant entre les différents types de ménages. Quelles sont les solutions pour faire des économies? Nous serons avec un expert de la question immobilière, Henri Buzicazo, à 5h45. Autre gros poste de dépenses pour les foyers français, Julien, c'est bien sûr l'énergie.
Oui, c'est d'ailleurs le budget qui a le plus flambé ces derniers mois. Il y a le gaz, l'électricité et le carburant. C'est simple, les prix à la pompe n'ont jamais été aussi élevés.
Oui, 1,67€ en moyenne le litre de gazole. 1,70€ celui de sans-plomb 95.
Ça, c'est les chiffres de ce matin. C'est les chiffres moyens en France. C'est inédit et ça pèse sur tous ceux qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Vous, peut-être, qui nous écoutez en ce moment et qui voyez votre plein, vous coûtez 5 à 10 euros plus cher par rapport à il y a un an. Jusqu'à quand cette flambée a-t-on atteint le pic? Faut-il tous basculer au super-éthanol? Voilà toutes les questions qu'on va poser à l'un des tout meilleurs spécialistes des matières premières, Philippe Chalmin, qui sera notre invité à 6h10. Enfin, on terminera Omblin avec votre partition.
Et avec l'une des plus grandes pop stars du monde, elle est à l'honneur dans un documentaire événement qui sera diffusé demain à la télé américaine. La cadette des 9 Jackson, des 9 enfants Jackson, Janet Jackson dans la partition à 6h20.
Voilà, vous avez l'essentiel du programme. On espère que cette musique vous aura bien extrait de votre lit. Bonjour Anissa Dadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Alors, je prends la petite feuille que vous m'avez tendue.
Oui, vous allez voir,
les jours se
original.
Suivent et se ressemblent. tiens.
C'est la même météo depuis quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors, on est en hiver, vous allez me répondre, c'est vrai, et c'est le même scénario. Alors, nous avons débrouillard encore ce matin sur toute la moitié nord du pays. Attention sur les routes. Tiens, il y a Jérôme qui nous écrit ce matin et qui nous dit qu'il roule dans l'est entre Besançon et Orchamps. Et ça glisse pas mal sur les routes, donc soyez prudents. Entre la Bretagne et le Grand Est, les brouillards sont givrants ce matin avec des températures négatives. Merci pour vos messages qui nous permettent de faire le tour de France. Sur la moitié sud, le ciel est déjà lumineux. Et puis dans l'après-midi, même scénario. Sur la moitié sud, du soleil qui règne en maître dans un ciel complètement dégagé. En revanche, au nord de la Loire, ça reste très gris, avec même une dégradation, puisqu'on a une petite perturbation qui va toucher les Hauts-de-France et les Ardennes avec des averses. Alors ce matin, à 4h, on avait moins 5 à Saint-Brieuc, moins 4 à Mont-de-Marsan, moins 3 à Besançon et Albi, 0 à Aurillac, 2 degrés à Paris et Carcassonne, 3 à Saint-Brieuc et 8 à Dunkerque sous les nuages.
Merci beaucoup Anissa Dadi et merci à vous pour vos messages sur les réseaux sociaux. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h.
Il y a un an de ça, 10 euros le paquet de couches et je suis à 15 euros. Moi, je m'achète plus de vêtements. Je reste avec mes pantalons trop grands, par exemple, parce qu'on a nos courses à faire.
On vient d'en parler, journée spéciale pouvoir d'achat aujourd'hui sur Europe 1. Boucler les fins de mois quand tout augmente, logement, carburant, nourriture ou les couches, tout sauf les salaires. Mission presque impossible pour beaucoup de Français, à l'image de cette mère de famille que l'on vient d'entendre. Justement, le pouvoir d'achat au centre des manifestations publiques privées prévues aujourd'hui. Nouvelle guerre froide aux portes de l'Europe, une crainte que n'a pas apaisé. La réunion hier à Paris entre diplomates français, allemands, russes et ukrainiens. Pas d'accord, pas de concession pour l'heure de Moscou, mais les discussions se poursuivent. Et puis, la remontada des Bleus hier à l'Euro de handball, menée pendant plus de 50 minutes. Ils se sont finalement imposés 30 à 29 sur le fil face au Danemark au terme d'un match haletant. Ils obtiennent par la même occasion leur place en demi-finale.
Europe Matin, Omblin Roche.
Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Roman Oquet, par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour Jean-Michel. Journée spéciale pouvoir d'achat ce jeudi sur Europe 1. À cette occasion, arrêtons-nous ce matin sur ces Français qui ont du mal à boucler les fins de mois. Nous sommes le 27 janvier, forcément, ils sont nombreux aujourd'hui comme Morgane et Quentin. Il est pêcheur, elle est vendeuse, jeune parent de Luna, 2 ans. Des rêves plein la tête, un projet de deuxième enfant, l'achat d'une maison à rénover. C'était sans compter sur l'inflation venue les percuter de plein fouet, ce qui les oblige à revoir leur projet. Le reportage de Sandrine Prioulaire qui est dans les Côtes d'Armor.
Tout le monde petit à petit, et à la fin du mois, on a du mal.
C'est mal, mais c'est comme ça. On continue, on marche la tête haute.
C'est un jeune couple dont les projets ont été rattrapés par l'inflation. Quentin, patron pêcheur depuis 5 ans.
Moi, je bosse du lundi au samedi soir. Je pars en mer à 4h le matin et je reviens là, entre 18 et 20 heures des fois. Mais surtout là, depuis le gasoil qui a augmenté, on essaye de limiter les choses.
Et Morgane, nouvellement lancée dans la livraison de la pêche de son compagnon.
Je me verse un salaire de 1 000 euros. Là, les couches de ma fille déjà. Il y a un an de ça, 10 euros le paquet de couches et je suis à 15 euros. Moi, je m'achète plus de vêtements. Je reste avec mes pantalons trop grands, par exemple, parce qu'on a nos courses à faire. Ouais, je vais pratiquement 200 euros de gasoil, plus 200 euros par mois pour la maison. 400 euros, c'est que le manger pour la popote. Et après, les couches, tout ça. Donc voilà, il n'y a plus rien. Il y a quelque chose qui change un peu, là, qu'on arrive à remonter un peu la pente pour tout le monde, je pense.
Et à l'heure du dîner, la famille de pêcheurs sait déjà limiter son budget nourriture avec le sourire.
Un peu d'araignée, un peu de coquille, un peu de bulot, et voilà. On se fait quand même plaisir.
Erki, Sandrine Prioul, Europe.
Voilà, on l'a entendu, 200 euros de budget mensuel pour le gazole. Ça commence à faire cher, Alban.
Ouais, d'autant plus que les prix des carburants atteignent toutes les semaines de nouveaux records. 1,70 € en moyenne, le litre de sans-plomb 95. 1,67 € pour le diesel. Pourquoi une telle explosion des prix à la pompe? Faut-il s'attendre à de nouvelles hausses dans les prochains mois? Maud Descamps, vous êtes spécialiste des questions d'énergie sur Europe 1. Quand on parle d'augmentation, on parle de quoi concrètement?
Eh bien, c'est simple. Sur un an, le prix d'un plein d'essence de 40 litres a augmenté en moyenne de 12 euros si vous roulez au sans-plomb, de 13,50 euros si vous roulez au gasoil. Une hausse qui s'explique d'abord par l'augmentation du prix du baril de Brent qui a passé la barre des 90 $ pour la première fois hier, une première depuis 2014, contre 55 $ il y a un an. Cette hausse des prix du baril est due à la fois à la situation sanitaire. Le vent de panique causé par Omicron commence à se calmer, estiment les experts. Donc la demande repart à la hausse. Et autre facteur, la situation très tendue en Ukraine, comme le détaille le spécialiste Philippe Chalmin.
Si nous avions vraiment un conflit armé autour de l'Ukraine, ceci provoquerait une flambée des prix du gaz et inévitablement le pétrole suivrait. Et à ce moment-là, la barre des 100 $ pourrait être franchie. Ça va charger un petit peu un climat géopolitique tendu.
Et enfin, autre facteur pour expliquer la hausse des prix à la pompe, le taux de change. Avec un euro plus faible, les prix du pétrole sont plus élevés, même si le prix du baril de Brent en dollars reste le même.
Merci Maud Descamps. À noter qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 mars, selon le Parisien, le groupe Casino bloque le prix de ses bouteilles de gaz. 10 millions de Français en utiliseraient régulièrement. Une grève d'ampleur est d'ailleurs prévue aujourd'hui. Public et privé se mobilisent autour de deux revendications. Augmentation des salaires, notamment du SMIC et emploi.
Sur le dossier ukrainien, 100 000 soldats russes restent massés à la frontière, menaçant d'envahir le pays à tout moment.
Et les États-Unis sont catégoriques. Non, ils ne fermeront pas la porte de l'OTAN à l'Ukraine. L'une des principales demandes de Moscou, mais assurent avoir proposé une voie diplomatique pour éviter une nouvelle guerre froide aux portes de l'Europe.
Et de leur côté, les représentants français, allemands, russes et ukrainiens se sont réunis hier à Paris. C'est ce qu'on appelle un format Normandie.
Oui, et ils disent avoir obtenu un bon signal après cette réunion de 8 heures, malgré des discussions plutôt difficiles. Dmitri Kozak, le conseiller de Vladimir Poutine, reconnaît lui aussi des avancées.
Les échanges qu'on a eus aujourd'hui ont été très difficiles, mais ils ont pour la première fois été très francs. Nous avons passé en revue tous les problèmes qui se sont accumulés, malgré les différences de compréhension et de lecture des accords de Minsk qui existent entre les représentants de l'Ukraine et de certaines zones des régions de Donetsk et Lugansk. La trêve, le cessez-le-feu, doit persister conformément aux accords conclus le 22 juillet 2020. Ça doit être respecté par les deux parties. Ce sont eux qui portent la responsabilité. Sur les divergence d'interprétation de l'accord de Minsk, nous avons décidé que des délibérations seront organisées en Ukraine et aussi à Donetsk et Lugansk pour que dans 2 semaines, les parties puissent se retrouver à Berlin afin de trouver des solutions à ces questions qui perdurent depuis déjà 7 ans.
Des propos recueillis au micro européen de Thibault. Une nouvelle réunion aura lieu début février. Rappelons aussi qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'entretiendront demain par téléphone sur la crise ukrainienne.
Concernant maintenant l'épidémie de Covid, la course contre la montre. Les laboratoires travaillent désormais sur un vaccin conçu spécifiquement pour le variant Omicron.
Moderna vient de débuter ses essais cliniques. Le laboratoire l'a annoncé hier, avant-hier, pour Pfizer et BioNTech. Car si le vaccin que l'on connaît aujourd'hui est efficace contre les formes graves, il l'est moins contre la transmission d'Omicron. Objectif du nouveau sérum, réduire les risques de contamination. Yasmine Akatou, comment s'organise cet essai ?
Eh bien, 1420 candidats en bonne santé, âgés de 18 à 55 ans, ont été recrutés pour participer à cet essai. Ils seront divisés en 3 groupes. Le premier, d'environ 600 patients qui ont reçu 2 doses du vaccin Pfizer il y a entre 3 et 6 mois. Eux recevront 1 ou 2 injections du nouveau sérum contre Omicron. Dans le deuxième groupe, les 600 personnes ont toutes leurs doses de rappel. Une partie recevra le vaccin avec la souche Omicron. L'autre aura le droit à une 4e dose du vaccin actuel. Il s'agit de voir si le nouveau vaccin provoque une réponse immunitaire plus forte contre Omicron qu'une simple dose supplémentaire. Enfin, le troisième groupe rassemble 200 candidats non vaccinés. 3 doses du nouveau sérum leur seront injectées. Grâce à ces différents cas de figure, Pfizer pourra déterminer l'efficacité de cette nouvelle formule en primo-vaccination, mais aussi en complément à un schéma vaccinal complet. Une demande d'autorisation de mise sur le marché pourrait être demandée par le laboratoire américain en mars prochain.
Les précisions de Yasmina Katou.
On passe au sport et c'est fait, non sans se faire peur, les Bleus qualifiés pour la demi-finale de l'Euro de handball.
Il leur fallait un nul pour passer, c'est presque ça, hein, avec la victoire hier soir de la France contre le Danemark, 30 à 29. Menés pendant plus de 50 minutes, les experts ont remonté la pente, une montagne à gravir, disait hier Nicolas Karabatic. Écoutez l'émotion et la joie de Valentin Porte au micro de beIN Sport.
J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est né ce soir. Vraiment un grand coup de chapeau à toute l'équipe. Vous savez, depuis le 26 décembre, on y est. Et c'est très compliqué. On s'est entraîné à 12. On ne savait pas qui allait participer. Le Covid, pas de Covid. Les blessés, pas blessés. On a enchaîné les blessés. Beaucoup nous voyaient perdre rapidement parce qu'on avait des blessés, on avait des trucs. Nous voyaient peut-être une déception de l'Euro. Mais nous, on y a toujours cru. C'est le premier objectif qui est arrivé, qui était donc de se qualifier pour le dernier carré. Maintenant, on va essayer de rouler sur tout le monde.
Et le prochain rendez-vous pour l'équipe de France de handball dans 7 euros, ce sera contre la Suède demain soir, 20h30.
Et puis à l'Open d'Australie, c'est du tennis, hein, les dames jouent leur demi-finale ce matin.
Première affiche à 9h30 avec Ashley Barty, Madison Keys, suivi juste après de Danielle Collins, Iga Swiatek.
C'est noté, merci beaucoup Alban Leprince et à tout à l'heure.
Il est 5h09 et on passe aux courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 705 favorable. Voilà une jument qui s'adapte à tout, aussi à l'aise corde à droite que corde à gauche. J'en veux pour preuve ses 2 dernières victoires le 23 décembre à Cagnes-sur-Mer sur un tracé de vitesse, puis le 9 janvier à Vincennes sur un parcours de tenue. Visiblement au mieux, elle devrait pouvoir profiter pleinement de ce bel engagement réservé aux seules femelles et ainsi réaliser la passe de 3. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 5, favorable.
Favorable, tiens, c'est le numéro 5. Merci Thierry Léger, vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Vous arrivez juste, soyez les bienvenus sur Europe 1, bon réveil à 5h10. C'est le pressing et avec nous Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Bonjour.
On commence comme chaque matin avec les unes de vos journaux et cette bonne nouvelle, tiens, le nombre de chômeurs est au plus bas depuis 10 ans. Le repli est de 13,6% sur un an et fait plus qu'effacer la crise du Covid. Mais un point noir subsiste, le chômage de longue durée. C'est la une des Échos de ce matin. Autre bonne nouvelle, cette fois-ci en une du Figaro. Omicron relance l'espoir d'une immunité collective, titre Le Quotidien. Environ 15 millions de Français, tenez-vous bien, cette info elle est juste incroyable, 15 millions de Français ont été contaminés depuis le 1er janvier, soit presque autant qu'en 2 ans de pandémie. C'est absolument effarant.
Ça pose question,
ouais. On termine avec Le Parisien aujourd'hui en France qui consacre sa une au courageux combat de Florent Pagny contre le cancer. On vous en parlait hier, ici même, le chanteur a annoncé être atteint d'une tumeur cancéreuse à un poumon. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous sélectionné ?
Ouais, ils font partie désormais de notre quotidien, hein. Vous venez de l'évoquer. Qui s'imaginait il y a encore un an qu'on s'enfoncerait régulièrement un contre-tige dans le nez, et tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Focus sur les tests antigéniques devenus un marché juteux. Tout le monde veut avoir accès à la poule aux œufs d'or, témoigne un pharmacien des Hauts-de-Seine en région parisienne dans Libération ce matin. Entre le 10 et le 17 janvier, 11 millions de dépistages ont été pratiqués. Alors, prenez votre calculette, hein, pour chaque test antigénique réalisé dans une pharmacie, la prise en charge par l'assurance maladie est de 25 euros. 25 fois 11 millions.
250
ça fait... Ouais, ça fait beaucoup. Un autre chiffre qui va sans doute vous faire tomber de votre chaise. Le gouvernement avait prévu une enveloppe d'1,6 milliard d'euros pour les tests cette année, donc 2022. 12 mois, hein.
Tout est parti. Atteint,
voilà, tout est parti. En mode janvier, ça y est. Voilà, l'enveloppe est tout y est passé. Pour les autotests, les pharmacies les achètent chez les grossistes entre 2 et 3,50 et les revendent au prix réglementé de 5,20. Autant vous dire que certains, pour certains, un dollar, c'est dessiné sur la pupille comme des personnages de cartoon, hein, les yeux exorbités. Une poule aux œufs d'or, oui, pour les pharmacies et pour les opportunistes, hein, des prestataires de services équipés de Barnum se proposent de voler au service des pharmacies débordées. Voilà donc des tentes blanches qui poussent un petit peu partout dans nos villes et sous les tentes, sachez-le, ce ne sont pas vraiment des personnels de santé, hein, ils fournissent matériel et personnel et ils reçoivent en échange entre 10 et 12 euros sur les 25 euros de remboursement de la Sécu. Et donc on assiste à quelques aberrations, hein. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui s'est baladé dans le froid dans Paris. Hier, il faut savoir que les tests doivent être conservés entre 2 et 30 degrés et surtout il faut les faire au-dessus de 7 degrés. En ce moment, c'est un petit peu compliqué sous des tentes ouvertes aux quatre vents. Le risque, c'est de voir une multiplication de faux positifs. Pas sûr que les employés des sociétés devenues sur le terrain, donc des nouveaux spécialistes santé, s'attardent sur ces détails sous certains Barnum devant lesquels les files d'attente ne désemplissent pas. Les flacons, les plaquettes sont posées sur un coin de table sans aucune précaution.
Barnum qui, je me permets, oui. Certains sont totalement illégaux. Hein. On l'a raconté ici même sur Europe 1. Il y a deux semaines, je crois, certains Barnum sont installés de manière totalement illégale.
Non, on assiste à des situations inimaginables et l'occasion de préciser d'ailleurs qu'il vaut mieux éviter de laisser ses autotests dans la voiture par moins 5. Hein. Ça aussi, s'il faut laisser à température ambiante et au-dessus de 2 degrés. Voilà, pour la conservation. Et pour les tests aux alentours de 10.
Merci beaucoup, Omblin. Vous savez tout désormais sur la conservation des tests antigéniques. Martin, on vous écoute.
Avec Covid, toujours avec cette crise, on parle beaucoup en France du manque de personnel médical, manque d'infirmières, d'aides-soignants, manque de médecins aussi dans les déserts médicaux. Bref, on manque de tout. Mais on est loin d'être les seuls. Hein. Le phénomène est observable dans quasiment tous les pays développés. Mais les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne ont trouvé la parade. Hein. Faire appel à du personnel étranger, souvent venu de pays pauvres. C'est le New York Times qui pointe du doigt le phénomène dans un article repris en France par le Courrier International. Avec ce témoignage, notamment celui d'une directrice d'hôpital en Zambie, littéralement inondée de mails par des recruteurs. Elle-même s'est vue proposer un visa pour aller aux États-Unis. Alors si officiellement la Zambie forme trop d'infirmières, c'est évidemment les plus chevronnées, celles qui ont le plus d'expérience, qui sont visées et qui font ensuite défaut dans leur hôpital.
Et cette émigration des personnels de santé, c'est nouveau ?
Alors non, hein, mais depuis 2 ans, elle a connu un énorme boom, effet Covid oblige. Les procédures d'obtention de visa et de contrat de travail ont été accélérées. Les Anglais, notamment, ont lancé un visa spécial santé. Le Canada n'oblige plus à parler parfaitement anglais. Même le Japon, hein, pourtant très fermé à toute forme d'immigration, s'y est mis. Mais le revers de la médaille, c'est qu'un pays comme les Philippines, qui a longtemps formé trop d'infirmières, est aujourd'hui au bord de la rupture. Pourtant, ces pratiques sont encadrées, hein, par un code de bonne conduite édicté par l'OMS en 2010. L'objectif, c'était justement d'éviter que les médecins des pays pauvres partent. Cela passait par des accords bilatéraux. Hein, les pays riches s'engageaient à financer le système de santé des pays pauvres et surtout à permettre le retour des médecins expatriés. Des accords aujourd'hui largement contournés par les recruteurs, bien aidés, il est vrai, hein, par des professionnels de santé pas franchement enchantés à l'idée de retourner dans leur pays d'origine. Un exemple assez frappant, c'est celui du Nigeria. Le pays compte 72 000 médecins diplômés, mais seuls 35 000, hein, même pas 1 sur 2, exercés dans leur pays l'an dernier. Alors la solution pour beaucoup, c'est d'inciter ces expatriés à rentrer. L'Union africaine planche d'ailleurs sur un traité régional de santé qui pourrait traiter de ces questions. Les pays riches dépouillent les pays pauvres de leur personnel de santé. C'est dans le Courrier International et c'est passionnant.
Absolument, c'est passionnant et c'est navrant d'une certaine manière. Je peux vous donner l'exemple de la Suisse où j'ai travaillé en tant qu'aide-soignant dans ma jeunesse il y a plus de 10 ans et effectivement il y a énormément d'aides-soignantes, d'infirmières haïtiennes qu'on a fait venir pour pas grand-chose. Haïti, dont le personnel est formé à Cuba, juste à côté. Et voilà, on a fait venir des milliers et des milliers de ces personnels soignants. Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi un article qui revient sur l'un des apports majeurs de la pandémie. Alors, on ne parle pas là de l'écouvillon, que l'on adore, Ombline, surtout quand il vient titiller notre cerveau, mais du télétravail que certains aimeraient plus que tout parce qu'il leur permettrait de glander ni vu ni connu. La glande, c'est le mot utilisé en novembre dernier par le patron du MEDEF, organisation patronale qui a maintes fois exprimé plus ou moins clairement sa réticence vis-à-vis de cette nouvelle manière de travailler. D'où cette question posée ce matin par les Échos. Faut-il surveiller les télétravailleurs? Est-ce nécessaire pour limiter les abus? Pour y répondre, il faut d'abord s'assurer qu'il y a bel et bien des abus, que le télétravailleur glandeur n'est pas un fantasme de cadre sup qui veut tout contrôler. Et force est de constater que oui, le téléglandeur existe. Certains d'ailleurs... Le téléglandeur, c'est l'expression du cru. Certains d'ailleurs témoignent dans l'article. Oscar, par exemple, qui travaille dans la finance, a appris comment modifier les paramètres de la messagerie interne de son entreprise pour ne pas apparaître inactif au bout de 5 minutes, mais après 2 heures sans avoir bougé sa souris. Idéal, évidemment, pour déjeuner entre amis ou passer un après-midi au parc. Il pousse même le vice jusqu'à laisser son ordinateur portable ouvert sur le bord de sa piscine. Comme ça, il peut répondre à un email urgent de son patron entre deux longueurs. Désolé pour le retard, je suis sous l'eau. Ce qui, techniquement, n'est même pas un mensonge. Antoine, lui, est salarié dans une grande entreprise et n'hésite pas à aller taper quelques balles en journée, parfois sur des courts de tennis situés à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile, le tout sans éveiller aucun soupçon. C'est du grand art. Donc oui, le télétravailleur glandeur existe, mais faut-il pour autant mettre en place des contrôles? Certaines entreprises le font, mais elles sont relativement peu nombreuses à s'aventurer sur ce terrain plus que glissant. Déjà parce que un voyant inactif sur Teams ou sur Zoom ne constitue pas une preuve de farniente, un appel d'un client qui dure plus qu'à l'accoutumée, un rendez-vous professionnel à l'extérieur. Autant de cas de figure qui montrent bien que ce genre d'indicateur ne prouve absolument rien. Ce n'est d'ailleurs même pas recevable devant les tribunaux. Et puis, si c'était techniquement possible de traquer les salariés en télétravail, est-ce que ce serait pour autant souhaitable? Eh bien, rien n'est moins sûr. La première raison, c'est que le télétravailleur dilettante l'est tout autant en présentiel. Vous savez, c'est Roger qui passe son temps à sillonner les couloirs, l'air pressé avec des dossiers sous le bras. Ça, c'est 10 000 pas par jour. Il les fait, le Roger. Ou alors, c'est Françoise, votre manageuse, qui brasse plus d'air qu'une éolienne avec ses dizaines d'emails quotidiens pour ne rien dire. Par exemple, bilan du bilan de la réunion sur le bilan annuel. Bah voyons, Françoise. Enfin, la deuxième et dernière raison de ne pas fliquer les télétravailleurs, c'est que le télétravail pratiqué dans de bonnes conditions, eh bien, ça augmente considérablement la productivité des salariés, entre 5 et 9% supplémentaires selon les études et les configurations, ce qui est considérable. Et je précise que ces estimations englobent les téléglandeurs.
Les téléglandeurs, on aime beaucoup. Merci beaucoup.
On a reconnu quelques-uns des profils dont vous nous parlez.
Roger, Françoise.
Fabrice Lafitte, n'est-ce pas?
Notre réalisateur. Oh, il n'est pas content. Ouh, attention aux jingles qui vont vous arriver, Martin, lorsque vous allez faire vos papiers.
Le JDS va être... on va pas être joli à l'antenne.
Dans 40 minutes, le JDS.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Martin.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Les principaux titres de ce jeudi, le journal permanent, Alban Le Prince.
Présidentielle 2022, coup d'envoi officiel aujourd'hui de la récolte des parrainages. Les fameuses 500 signatures. Dès ce matin, les préfectures adressent les formulaires aux élus habilités par courrier. Ils peuvent être retournés jusqu'au 4 mars, 18h. Début aussi aujourd'hui de la primaire populaire. 467 000 personnes sont inscrites pour désigner le candidat de la gauche à soutenir. Pour la présidentielle, vote ouvert jusqu'à 17h dimanche. Journée spéciale pouvoir d'achat aujourd'hui sur Europe 1. Selon Olivier Véran, le ministre de la Santé, 10 millions de Français ont bénéficié du 100% santé depuis sa mise en place en 2019. Dispositif qui permet une prise en charge complète par l'assurance maladie et la complémentaire, des lunettes, prothèses dentaires et auditives. Plus de 40% des salariés EDF en grève hier pour protester contre la demande de l'État de vendre de l'électricité à bas coût à ses concurrents pour contenir la hausse des prix à 4%. L'intersyndicale se réunit ce matin pour décider des suites à donner à la mobilisation.
Très bon réveil à tous et avec nous sur Europe 1, les initiatives en France à présent, notre coup de projecteur quotidien sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Olivier Rognon.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes sapeur-pompier au 1080, le service départemental d'incendie et de secours de la Somme. Et si on vous appelle ce matin, c'est parce que vous avez inventé un dispositif très ingénieux qui permet d'extraire rapidement un blessé, notamment lors d'un incendie par exemple. Expliquez-nous.
Alors enfin, c'est un système que j'ai imaginé. En fait, c'est un dispositif d'extraction rapide. Pour exemple, en fait, un collègue pris d'un malaise au cours d'un incendie ou un policier blessé par balle, en fait, ce sont des cas critiques où le temps est compté. Il faut minimiser en fait les risques de décès ou de séquelles graves, comme en cas d'arrêt cardio-respiratoire ou la proximité en fait d'un défibrillateur est déterminant. Donc, les acteurs de la sécurité doivent disposer d'un outil facile à utiliser, y compris en état de stress extrême pour évacuer des victimes. Donc le système sert vraiment à ça, quoi.
Donc en fait, pour le décrire à nos auditeurs qui, eux, ne peuvent pas le voir, c'est un jeu de sangles qui est relié au passant à la ceinture et que l'on déploie autour de la taille du blessé sous ses bras, ce qui permet donc de le déplacer sans que nos mains soient mobilisées, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. En fait, le produit, donc, en cas de problème, 3 secondes suffisent pour le déployer et passer autour du blessé, tout en gardant en fait les mains libres pour tirer le corps et mettre à l'abri cette personne.
Parce qu'aujourd'hui, en intervention, quand vous avez un collègue qui malheureusement est blessé ou que vous devez extraire une victime inconsciente, comment vous procédez ?
Depuis que je suis sapeur-pompier, depuis les années 90, on a des sangles qu'on achète un peu dans les magasins de sport avec un mousqueton qui a été amélioré. Et c'est des choses qu'on utilise et qui sont très hasardeuses pour accrocher son collègue.
Et c'est de la débrouille, quoi.
C'est de la débrouille, voilà, c'est ça. On va se retrouver à tirer le collègue et ça va durer longtemps. Et en incendie, on parle du temps écran-distance. Et du coup, vaut mieux rester rapidement debout que longtemps, en fait, au sol pour tirer son collègue. Donc l'idée, c'était d'encercler, en fait, notre collègue, de partir en moins de 3 secondes et l'extraire de cette pièce.
Ça prend de la place, une fois replié, ce dispositif autour de la ceinture ?
Alors là, en fait, on est à l'état de prototype. Alors, ça prend un petit peu de place, mais le produit qui va sortir va être extrêmement fin et beaucoup plus abouti.
Je précise que vous avez lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter avec pour l'objectif de récolter 33 400 euros. Cet argent, il va vous servir à industrialiser le process, à finaliser le prototype pour que le modèle que vous allez mettre sur le marché soit totalement abouti, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Le produit a besoin d'être beaucoup plus abouti. Celui qu'on voit sur les photos et dans les différents clips n'est pas le produit final. Il sera bien optimisé et justement aux normes pour répondre à tous les besoins en fait des acteurs de la sécurité, que ce soit la police, que ce soit les pompiers, que ce soit les gendarmes ou encore peut-être la protection rapprochée.
Cette campagne de financement, elle prend fin dans 3 jours, le 30 janvier, et pour l'heure, vous avez récolté 9 000 euros environ. Qu'est-ce qui se passe si d'aventure vous n'atteignez pas l'objectif ? L'aventure se poursuit, quoi qu'il en coûte ?
Voilà, l'aventure se poursuit, puisque au vu des retours positifs que j'ai derrière, je parle aussi de Police Action Solidaire, qui est une institution vieille de 100 ans, qui m'appuie vraiment dans ce projet, qui m'encourage et qui m'aide dans ce projet pour le développer, enfin pour conseil. Je vais en fait investir moi-même les deniers, puisque le crowdfunding n'est pas allé jusqu'au bout, donc je n'aurai pas les 33 400 euros et je n'aurai pas les 9 000 euros, puisque c'était du tout ou rien. Donc du coup, pour le coup, nous allons investir avec mon épouse et on va sortir le produit, comme je vous l'ai dit, je pense, selon les conditions sanitaires, fin mars, je pense.
Oui. Bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de succès en tout cas. Merci beaucoup Olivier Rognon de nous avoir présenté votre innovation. On espère qu'elle équipera bientôt tous les sapeurs-pompiers de France, les forces de l'ordre et autres. Et puis vous nous disiez que cette campagne de financement participatif allait probablement pas aller à son terme. Mais si malgré tout, chers auditeurs, vous souhaitez aider ce projet, bah rendez-vous sur Kickstarter. On vous met le lien sur la page Facebook du 5h-6h30. Très bonne journée Olivier Rognon et à bientôt.
Merci Julien, merci beaucoup. Merci.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon jeudi matin à tous sur Europe 1. Nous sommes le 27 janvier et au programme de la prochaine demi-heure, une balade avec Olivier Pouls qui nous emmène dans la Loire.
Oui, à la découverte de la plus vieille vigne de France, plus de 200 ans. Imaginez-vous, ça tient du miracle. C'est aussi grâce aux États-Unis, il faut bien l'avouer. Olivier nous racontera dans 20 minutes.
Et puis, on parle pouvoir d'achat aujourd'hui sur Europe 1. Ça ne vous aura pas échappé.
Oui, le premier sujet de préoccupation des Français à quelques semaines de l'élection présidentielle et dans le budget des ménages, c'est le logement qui pèse le plus lourd. Comment réduire ce poste poste de dépense sans déménager. Et pourquoi le logement est-il le grand oublié de la campagne présidentielle? Nous serons avec un expert de la question immobilière.
La météo, Anissa Haddadi. Un temps gris et humide au nord.
Et oui, on a toujours ces régions situées au nord de la Loire qui restent sous les nuages toute la journée. C'est fatigant un peu, on a envie de vitamine D hein, sur la moitié nord du pays, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais il faut en prendre.
Attention ce matin au verglas aussi, on a beaucoup de brouillard givrant. Alors ça concerne toutes les régions, hein, celles situées dans le nord-ouest, dans le nord-est également, puisqu'on a des températures négatives. Et par endroits, c'est compliqué sur les routes, on le voit avec vos messages sur les réseaux sociaux. En plus de cette grisaille, on a une perturbation. Ah oui, ça change un petit peu sur l'extrême nord, on a les averses qui arrivent. Donc, de la pluie sur les Hauts-de-France et les Ardennes cet après-midi, au sud de la Loire. Là aussi, c'est le même scénario, c'est-à-dire des brouillards le matin sur la vallée de la Garonne principalement. Là, les nuages vont rester tenaces, mais alors partout ailleurs, c'est très ensoleillé. Il fait très beau encore sur la moitié sud du pays aujourd'hui, avec du Mistral qui souffle toujours à 50 km/h comme hier dans la vallée du Rhône. Alors les températures, on a moins 9 à Brive, ça bouge pas trop ce matin, moins 7 à Clermont-Ferrand. Prenez vos gants, grattez les pare-brises hein, ce matin, moins 4 à Dijon et Lyon, moins 3 pour Paris. Pour Bordeaux, pardon, 2 degrés à Paris et à Lille et 7 à Cherbourg. Alors cet après-midi, on aura 1 degré à Besançon. Ça grimpe à Paris avec 9 degrés grâce aux nuages et 15 à Bastia.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
C'est effrayant ce qu'il se passe, la situation qui se dégrade si rapidement.
À la une de ce jeudi, l'inquiétude de cette habitante de Kiev face à la menace d'une invasion russe. Moscou maintient la pression à la frontière, mais la recherche d'une solution diplomatique se poursuit. Paris et Berlin sont à la manœuvre. Europe 1 pose la question du pouvoir d'achat des Français, une thématique qui est en train de s'imposer à tous les candidats à la présidentielle et que nous allons développer tout au long de cette journée. Exemple à Toulouse, avec cette entreprise qui distribue des primes à ses salariés pour amortir la hausse des prix. Et puis le retour en librairie d'un ancien lauréat du Goncourt. Pierre Lemaître publie un nouveau roman, Le Grand Monde, c'est son titre.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Le chaud et le froid ce matin, on ne sait pas très bien où situer le curseur sur l'échelle des tensions entre la Russie et les Occidentaux. Hier soir, Washington a fermé la porte à une exigence clé de Moscou, empêcher l'Ukraine d'intégrer l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a même dit se préparer au pire, mais à Paris, on ne se résout pas à un conflit. Après 9 heures de discussion, Français, Allemands, Ukrainiens et Russes ont convenu de se revoir.
Et à Kiev, la capitale de l'Ukraine, l'inquiétude grandit.
Les habitants attendent et espèrent une issue diplomatique. Ils ne veulent pas revivre le conflit et l'invasion russe de 2014. Notre envoyé spécial Marion Gauthier s'est rendu devant le mur de la mémoire, un mémorial dressé en hommage aux soldats ukrainiens tombés pour défendre leur pays. Reportage.
Des centaines de portraits accompagnent les passants. Quelques bougies dans la neige, un écran où défilent des images du front, de la terre retournée, des débris. Le regard de Karina, la vingtaine emmitouflée, se perd dans le bleu du mur.
Peut-être que ce mur sera prolongé. C'est effrayant ce qu'il se passe, la situation qui se dégrade si rapidement.
Ils sont peu nombreux à confier qu'ils ont peur. Yuri répète qu'il vit une retraite paisible, qu'il ne croit pas à la possibilité d'une nouvelle guerre. Puis il se tourne vers les visages des soldats.
On a perdu tellement de vies. Comment voulez-vous vous habituer à ça, à ce conflit? C'est impossible. Le risque est présent tout le temps.
J'ai le cœur brisé, soupire Alena, et les larmes coulent sur les joues de la jeune avocate.
Évidemment que c'est encore plus dur de regarder ce mur en ce moment. Nous sommes fatigués. On s'est tourné vers l'Europe, on a tenté de développer la démocratie, de combattre la corruption. Et jamais notre agresseur ne nous laisse tranquilles.
S'il le faut, nous nous battrons jusqu'à la fin, ajoute-t-elle, comme ceux dont le sourire est figé dans le béton du mémorial. Kiev, Marion Gauthier, Europe 1.
Tension en Europe et tension en mer du Japon. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile qui a fini sa course dans la mer. C'est le 6e essai depuis le début de l'année.
5h passées de 33 minutes sur Europe 1. Et vous le savez, aujourd'hui c'est une journée spéciale pouvoir d'achat sur notre antenne. La vie chère, les prix qui montent ou qui donnent l'impression de monter sans cesse, c'est la principale préoccupation des Français en cette année d'élection présidentielle.
L'augmentation des prix, chacun peut le constater au moment de régler la facture, que ce soit l'électricité, le gaz et bien sûr l'essence. Dans certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, les salariés sont en position de force pour réclamer des hausses de salaire. Dans d'autres, ce sera plus compliqué faute de marge de manœuvre suffisante. À Toulouse, eh bien, une entreprise du bâtiment a trouvé la solution, l'intéressement aux bénéfices. Reportage Benjamin Péter.
C'est un petit coup de pouce qui fait vraiment du bien.
Christian n'a pas hésité longtemps quand son patron lui a proposé il y a quelques jours de redistribuer une partie des bénéfices, soit sous forme d'épargne salariale sur le PEE ouvert l'année dernière par l'entreprise, soit sous forme de prime. Il a préféré améliorer immédiatement son pouvoir d'achat.
C'est du cash, alors imposable, ce qui est la différence avec le PEE. Là, le cash est imposable, mais on a tous eu des dépenses un peu imprévues ces derniers temps, donc on est plus parti sur une prime. Ça peut aider à subvenir à certaines nécessités.
Dans ce bureau d'ingénierie du bâtiment, on a l'habitude d'impliquer les salariés. Pour Sylvain Michel, le patron de Connex, cette redistribution, c'est aussi une manière de fidéliser ses salariés.
De dire on va distribuer de la rémunération parce qu'on a fait une bonne année, c'est aussi la récompense d'une année sur laquelle on a beaucoup travaillé, tous, et on a eu des résultats. Et le jour où on va être dans une difficulté, sur un chantier, sur je sais pas quoi, je sais aussi qu'à ce moment-là, je pourrais compter sur les forces de l'entreprise. Et donc ça, c'est tout gagnant pour l'entreprise.
Mais ce chef d'entreprise me confiait également que si l'inflation devait continuer d'augmenter, les primes ne suffiraient plus et qu'il faudrait se poser sérieusement la question de la revalorisation des salaires. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
On vient de l'entendre, cette question de la hausse des prix entre aussi les chefs d'entreprise. Ils sont pris en tenaille entre les demandes de hausse de salaire et l'augmentation du coût des matières premières. Le secteur de l'alimentaire est lui aussi touché de plein fouet.
Et le coût de l'énergie explique en partie cette inflation. Si vous avez l'impression de payer vos courses plus cher, cela n'a rien d'étonnant. Les prix ont en effet augmenté sur un certain nombre de produits, Carole Ferry.
Ce qui est le plus augmenté, selon Famille Rurale, c'est le prix des fruits et légumes, plus 9% par rapport à 2019. Résultat, selon l'association, s'alimenter sainement coûte en moyenne pour une famille de 4, 696 euros par mois pour les premiers prix, 1148 euros pour du bio. Les chiffres de l'INSEE montrent également une hausse des prix des pâtes alimentaires, de la semoule de couscous et du poisson frais. À noter toutefois une baisse des prix sur le porc et le beurre, selon la Fédération du commerce. Voilà pour 2021. Pour 2022, tout se joue en ce moment avec le traditionnel bras de fer des négociations commerciales qui oppose cette année des industriels confrontés à la hausse du prix des matières premières et la grande distribution qui met en avant la défense du pouvoir d'achat. Mais vraisemblablement, l'inflation encore contenue sur les produits alimentaires devrait s'envoler cette année. Même Lidl annonce une hausse de 3 à 3,5%. En tout cas, le chèque alimentation sur lequel travaille le gouvernement depuis plusieurs mois ne semble pas destiné à sortir des cartons d'ici la fin du quinquennat.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Et tandis que les prix s'inscrivent à la hausse, le chômage, lui, connaît une baisse spectaculaire. Près de 500 000 chômeurs de moins en un an pour la catégorie A. Il s'agit des personnes n'ayant exercé aucune activité. Au total, et toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 5 368 000 personnes.
Le reste de l'actualité, en bref, avec tout d'abord la campagne pour l'élection présidentielle.
Et l'ouverture officielle de la campagne de parrainage, étape indispensable pour pouvoir se présenter. Les candidats ont jusqu'au 4 mars pour récolter les 500 signatures d'élus locaux nécessaires. Ce 27 janvier marque la journée internationale des victimes de la Shoah. Jean Castex se rend au mémorial d'Auschwitz en Pologne pour le 77e anniversaire de la libération de ce camp de concentration et d'extermination. Le Premier ministre sera accompagné pour l'occasion des ministres de l'intérieur et de la culture.
C'est un événement littéraire. Cet événement, c'est la sortie du nouveau roman de Pierre Lemaitre.
On l'avait laissé avec le dernier tome d'une trilogie commencée par Au revoir là-haut, qui lui avait d'ailleurs valu le prix Goncourt. Il revient cette semaine avec Le Grand Monde chez Calman Levy. Nicolas Caro.
Le Grand Monde, le premier tome d'une tétralogie, commence en 1948. Après son exploration de l'entre-deux-guerres, Pierre Lemaitre construit une saga familiale au début des Trente Glorieuses. On suit le parcours des quatre enfants Pelletier, Jean, Étienne, François et Hélène. Chacun de leur destin nous emmène sur une piste différente. Étienne est en Indochine où il va malgré lui mettre à jour un scandale. François veut devenir journaliste à Paris au moment où la presse entame sa montée en puissance. Jean, lui, est marié à Geneviève, une femme redoutable, et mène une vie de petit commerçant, et enfin la discrète Hélène qui va se révéler. Pierre Lemaitre brosse le portrait d'une époque, comme dans sa trilogie précédente, en utilisant les armes du polar qu'il connaît bien et les techniques du feuilleton 19e. Il y a de l'action, des rebondissements, des surprises, mais aussi une vision sociale. On sent très fort l'influence des Dumas, Zola, Balzac et autres Victor Hugo dans Le Grand Monde, qui est aussi un roman monde.
Nicolas Caro, Le Grand Monde, roman signé Pierre Lemaitre aux éditions Calman Levy. Le sport avec le championnat d'Europe de handball. La France qualifiée pour les demi-finales après un match fou face au Danemark. Victoire des Bleus 30 à 29. Ils affronteront la Suède demain soir pour une place en finale.
C'est noté. Merci beaucoup Christophe Lamarre pour ce journal. On passe aux courses. Thierry Léger, les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. Retour à Vincennes pour un Quintet qui réunira 14 partants sur la distance de 2850 mètres. Titulaire de 2 victoires et 2 secondes places en seulement 4 tentatives cet hiver à Vincennes, Ingo, le numéro 9, me semble être un favori solide. Son principal opposant sera Falco Davaroche, le numéro 11, facile vainqueur le 9 janvier sur le parcours qui nous intéresse et qui n'a qu'à répéter cette performance pour disputer une nouvelle fois la victoire. Derrière ces 2 trotteurs incontournables, je vous propose les numéros 5, Foxtrot Noblesse, sérieux et maniable, et 14, French Way of Life, irréprochable grâce aux bons soins de son entraîneur, Grégoire Well. Enfin, les numéros 12, Follet Buissonnet, 13, Fantasia de Ligny, 2, Fine Pearl of Love et 1, Onas Nougat ont eux aussi quelques arguments solides pour terminer dans les 5 premiers de ce quintet particulièrement ouvert et difficile à déchiffrer. Mon pronostic, 9, 11, 5, 14, 12, 13, 2 et 1.
J'ai pas noté, j'ai pas eu le temps.
Ah, vous avez pas noté ?
Non.
Pas grave, europe1.fr. Les pronostics sont à retrouver dès maintenant sur notre site internet, donc n'hésitez pas à cliquer. Et merci beaucoup Thierry Léger.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1.
Le jour où, à 6h20 sur Europe 1, les grands faits historiques racontés à travers nos archives.
Et on en parlait dans le journal de Christophe Lamarre à l'instant. C'est aujourd'hui la journée internationale de la mémoire des victimes de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour Pauline. Nous allons revenir avec vous sur l'un des massacres qui fut l'un des pires échecs de la diplomatie internationale. Ce n'est pas le Rwanda, non. C'est encore plus proche de nous géographiquement. La Bosnie en Europe, le génocide de Srebrenica, épuration ethnique, crime contre l'humanité. Retour avec vous, Pauline, sur cette tragédie.
Qui fait l'ouverture du journal de 18h sur Europe 1 ce mardi 11 juillet 1995.
Srebrenica est donc tombée aux mains des Serbes. Cet après-midi, le porte-parole de l'ONU à Sarajevo l'a confirmé. Les Serbes de Bosnie ont pris le contrôle de cette enclave musulmane classée zone de sécurité de l'ONU.
Il n'aura fallu que 5 jours aux Serbes de Bosnie pour contrôler Srebrenica, ville plantée au milieu d'une région rurale. 5 jours de bombardements, de tirs, d'attaques. Les troupes serbes se massaient déjà depuis plusieurs mois aux portes de l'enclave. Le personnel de Médecins sans frontières assiste à l'offensive, assiégée comme les 40 000 réfugiés de la ville.
Un obus est tombé à trentaine de mètres de l'hôpital et a explosé la plupart des vitres. Ça rend effectivement le travail extrêmement dangereux pour les équipes de soins, ainsi que pour bien sûr les blessés qui sont amenés à l'hôpital.
Srebrenica a été déclarée zone protégée par l'ONU en avril 1993. Quelques centaines de casques bleus sont donc aux abords de la ville. Ils tentent de répliquer le 11 juillet 1995, mais la réponse internationale sera totalement inutile.
Appelés à la rescousse, les avions de l'OTAN sont rentrés en action. Ils ont détruit 2 blindés. Alors les Serbes ont lancé une menace. Si les frappes aériennes continuent, nous tuerons les 30 casques bleus que nous détenons. Les frappes ont été suspendues, les Néerlandais ont dû évacuer leur position. Dès lors, la route de Srebrenica était ouverte aux assaillants.
1500 soldats serbes contrôlent alors la ville. Des milliers de réfugiés fuient vers Potokari, base de l'ONU, espérant une protection. Mais sous les ordres du général Ratko Mladic et sous le regard des casques bleus, les hommes, les femmes, les enfants sont triés, embarqués dans des camions. Des centaines d'autres réfugiés traversent la forêt pour tenter de rejoindre les zones libres. Ils forment une colonne de 12 kilomètres traqués par les milices serbes. Beaucoup sont exécutés. Certains arrivent à atteindre des campements de fortune. Celui de Valovice, par exemple, où se trouve le journaliste Frédéric Albert.
Un vieillard se précipite sur nous. Je vais vous dire la vérité. Les Serbes ont tué 5000 hommes à Srebrenica. Tais-toi, lui dans un autre. Le vieux rentre dans le rang et s'en va s'asseoir aux côtés de ses femmes que la souffrance torture. Aujourd'hui, peut-être, il y aura des nouvelles. Peut-être, c'est cette espérance qui permet de tenir.
Un massacre, Pauline, qui fera plus de 8000 victimes.
Assassinés, exécutés, disparus, comment cette opération de purification ethnique a-t-elle été rendue possible en plein cœur de l'Europe ? L'ONU a été humiliée, dira Jacques Chirac en 1995, en comparant l'attitude internationale à celle des accords de Munich en 1938. Sujet de l'édito d'Alain Genestard quelques jours plus tard sur Europe 1.
La différence entre Srebrenica et Munich est dans la connaissance universelle des événements. On sait heure par heure ce qui se passe. On voit chaque soir à 20h les images terribles de la purification ethnique. Depuis Munich, malgré Munich, et en toute connaissance de Munich et de ses conséquences, on n'a toujours rien appris.
La Cour internationale de justice qualifiera Srebrenica de génocide en 2007.
Merci beaucoup, Pauline Jacquot. C'était le jour où vous restez avec nous. Journée spéciale consacrée au pouvoir d'achat sur Europe 1 et on va parler du plus gros poste de dépenses des Français, le logement. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Et parmi les dépenses incompressibles de tous les Français, on retrouve le logement dans notre matinale spéciale pouvoir d'achat sur Europe 1. Logement qui peut représenter plus de 40% du budget d'un foyer. On en parle, Omblin, avec Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers et membre du Conseil National de l'Habitat.
Bonjour Henri Buzy-Cazot.
Bonjour.
Le logement pèse de plus en plus dans le budget des ménages avec de nombreuses disparités en fonction de l'âge, de la composition du foyer, du niveau de vie ou du lieu de résidence. D'après les chiffres publiés par l'OCDE, en France, en 20 ans, le prix réel des logements a presque doublé. Comment l'expliquez-vous ?
Plusieurs raisons. D'abord, une offre qui est très inférieure par rapport à la demande. La demande, elle vient de l'évolution démographique, elle vient de phénomènes sociologiques, d'écohabitation, mais aussi séparation des ménages, des besoins qui se sont fortement majorés depuis 20 ans, et une offre qui n'a absolument pas évolué à la mesure des besoins. Donc, un phénomène de tension très très simple. Puis ensuite, on peut, dans le détail, expliquer aussi qu'on n'a pas suffisamment construit de logements neufs, qu'on n'a pas assez mobilisé le parc existant vacant dans nos villes moyennes ou dans nos grandes villes. Voilà. Mais en tout cas, un problème de déséquilibre entre l'offre et la demande, tout simplement, qui a créé des tensions extrêmement fortes et ça a entraîné des augmentations de prix de loyer ou d'acquisition dans les mêmes proportions.
Alors on va revenir sur ce phénomène de tension et cette problématique de la construction, mais avant tout, quelles seraient les solutions aujourd'hui pour réduire ce poste de dépense, que ce soit les loyers ou les prêts bancaires, sans déménager ?
Il y a plusieurs solutions. La première, on ne peut pas l'exclure. On est dans un pays qui a toujours considéré que le logement était un bien particulier. Il y a eu des aides publiques. Depuis la reconstruction, il y a des aides publiques. Elles se sont fortement réduites depuis 5 ans. Le quinquennat qui s'achève aura fortement réduit les aides publiques, qui sont des amortisseurs, en quelque sorte, pour les ménages qui ont des difficultés à se loger, là encore qu'ils soient locataires ou acquéreurs. Le deuxième sujet, c'est faire en sorte que le prix des logements soit moindre. Comment on peut faire ça ? D'abord, en produisant davantage. Depuis 5 ans, on a cessé d'affaiblir la construction neuve. On est pratiquement à la moitié de ce qu'il faudrait produire pour combler le déficit. Très clairement, dans le logement ancien, on a aussi des dispositifs à mettre en œuvre pour mobiliser des logements vacants dans nos villes qui sont là et qui doivent mobiliser des investisseurs pour les acheter, pour les rénover. Voilà, donc une offre neuve qui n'est pas au rendez-vous. On a pris du retard pour rapprocher l'offre et la demande.
Alors cet écart entre l'offre et la demande des logements se répercute sur le marché. Vous venez de le préciser à plusieurs reprises. On ne construit pas assez. Pourquoi ? La construction coûte trop cher ?
Il y a des terrains qui appartiennent à l'État, aux collectivités territoriales, qui aujourd'hui ne sont pas mis sur le marché, qui sont en jachère, qu'on n'utilise pas et qu'il faut évidemment mettre au service des promoteurs pour construire des logements privés ou des logements HLM. La deuxième chose, c'est la complexité de l'acte de construire. 8000 normes pèsent sur un promoteur qui veut construire aujourd'hui. Il faut simplifier l'acte de construire. C'est très clairement une priorité. Et puis, depuis ces dernières années, on a divorcé avec les maires qui sont responsables de la signature des permis de construire. L'État s'est fâché avec les maires. La suppression de la taxe d'habitation a privé les maires d'une ressource précieuse. C'était une très bonne nouvelle en apparence pour les Français, mais les maires se sont retrouvés avec moins de ressources et donc n'ont plus été enclins à signer le permis de construire. On a une baisse de la production qui vient de cette mauvaise entente entre l'État et les collectivités locales, très clairement.
On parle de pouvoir d'achat, particulièrement aujourd'hui sur Europe 1. Le logement est le poste de dépense des Français le plus important. C'est ce qu'on voit depuis le début de cet entretien. Pourquoi cette question du logement est quasi inexistante dans les programmes des candidats à la présidentielle ?
Déjà, je me permets de compléter ce que vous disiez. La part que le logement constituait dans le budget des ménages, elle est aujourd'hui entre 35% et 50%. Donc c'est très clairement le premier poste budgétaire des ménages. Ça l'est depuis 30 ans, mais ça ne fait qu'augmenter. Pourquoi le débat public fait-il une place si faible au logement ? On peut s'en étonner puisque les chiffres sont là. On parle beaucoup des dépenses énergétiques, on passe beaucoup de temps sur le coût de la voiture, sur beaucoup d'autres postes. Je pense que on a des discours de riches, c'est-à-dire qu'on voit que depuis 2 ans, prenons les 2 dernières années, les années Covid, le nombre de transactions n'a fait qu'augmenter. Mais ce qu'on ne regarde pas derrière, c'est que la typologie de ceux qui arrivent à acheter n'est pas la même. Ce sont des ménages de plus en plus riches, qui ont de plus en plus de revenus, qui arrivent à acheter. C'est-à-dire que l'essentiel des ménages, des classes moyennes, comme on dit, en France, souffrent de plus en plus d'un accès difficile au logement, qu'on veuille acheter son logement, qu'on veuille le louer. On a des discours qui, en réalité, sont tordus. Voilà, l'arbre cache la forêt, en quelque sorte. Et je trouve que les candidats à l'élection présidentielle ne sont pas lucides sur la réalité de l'accès au logement difficile de la plupart des Français sur tous les territoires, bien sûr dans les zones les plus tendues, c'est le cas de la région parisienne, c'est le cas des grandes villes, mais partout ailleurs.
Merci beaucoup Henri Buzicazo d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers et membre du Conseil National de l'Habitat. Cette problématique du pouvoir d'achat des Français, eh bien nous y revenons toute la journée dans nos différents rendez-vous d'information sur Europe 1. Merci Henri Buzicazo. À bientôt, bonne journée.
Merci.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Vous venez de nous rejoindre, vous faites bien. Il est 6h10 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Et c'est niette. Washington refuse de fermer la porte de l'OTAN à l'Ukraine. C'est pourtant la principale exigence de Moscou alors que 100 000 militaires sont postés à la frontière menaçant d'envahir le pays à tout moment. Hier, les diplomates français, allemands, russes et ukrainiens se sont réunis à Paris pendant 8 heures. Pas de sortie de crise trouvée, mais les discussions continuent. Journée consacrée au pouvoir d'achat ce jeudi sur Europe 1. Le Parisien annonce que le groupe Casino bloque à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars les prix des bouteilles de gaz. 10 millions de Français en utiliseraient régulièrement. Des manifestations sont d'ailleurs prévues dans toute la France aujourd'hui. 170 rassemblements et défilés à l'appel des syndicats et organisations de jeunesse pour réclamer notamment des hausses de salaire.
On en vient à la prescription culture sur Europe 1 et le jeudi, c'est gastronomie.
Avec Olivier Pouls, bonjour Olivier.
Bonjour Julien, bonjour Ambine.
Bonjour.
Vous nous faites découvrir aujourd'hui la plus vieille vigne de France. Où devons-nous aller pour la voir ?
Eh bien, direction la Loire et les environs du village de Soing en Sologne, où on trouve là un vestige viticole incroyable, une vigne de plus de 200 ans. Alors, il s'agit de quelques centaines de pieds du cépage romorantin, cépage local. Il y en a exactement 0,36 hectares. Des pieds noueux, torturés par le temps, des petites œuvres d'art qui ont été plantées autour de 1820 et qui ont miraculeusement survécu. Ils sont aujourd'hui exploités par Henri et Jean-Sébastien Marionnet, qui en produisent une cuvée baptisée Provignage. Et c'est une dénomination qui fait référence à ce qu'était la vigne en France avant le phylloxéra.
Oui, car cette vigne a résisté au phylloxéra qui a pourtant détruit la totalité du vignoble français et même européen.
Oui, et c'est là tout le mystère de cette parcelle. Il faut rappeler que le phylloxéra sont de minuscules petits pucerons qui mangent les racines des vignes et qui les tuent. Il s'est répandu partout en Europe dès la moitié du 19e siècle. Et en 50 ans, il a ravagé la totalité du vignoble. Rien n'a survécu. Alors le salut ensuite est venu des États-Unis où on a trouvé un porte-greffe résistant. Et c'est une grâce à ce porte-greffe que nous avons pu replanter de la vigne en France. Aujourd'hui encore, il faut savoir que notre vignoble est planté sur ces porte-greffes américains. Alors l'histoire de cette vigne est donc une sorte d'énigme. Personne n'a d'explication. Pourquoi a-t-elle, elle, résisté ?
Mais alors Olivier, comment une vigne peut-elle survivre aussi longtemps ?
Ben là aussi, il y a une sorte de miracle qui s'opère dans cette parcelle, car la durée de vigne habituelle d'une vigne, c'est quelques dizaines d'années. Allez, on peut aller jusqu'à un siècle. Mais là, elle est toujours là. Alors évidemment, certains pieds sont morts au fil du temps. Mais comme ici, il n'y a pas de porte-greffe, on peut replanter par provignage, donc, c'est-à-dire replanter directement dans le sol les bois d'un pied voisin pour remettre, entre guillemets, les pieds manquants. Ça a d'ailleurs donné des idées à son propriétaire, qui s'est lancé dans un projet un peu fou depuis quelques années, celui de planter plusieurs hectares là, en vigne franc de pied, c'est-à-dire directement sans porte-greffe. C'est un pari assez fou quand on sait que le phylloxéra est toujours présent.
Alors quel est l'intérêt de planter sans porte-greffe ?
Eh bien celui, dit-on, de retrouver le goût que pouvait avoir le vin avant le phylloxéra. Car on peut considérer que le porte-greffe, qui est présent donc entre le sol et le plant de vigne, joue une espèce de rôle de filtre. Alors il pourrait empêcher l'expression la plus pure qui soit du terroir. Et d'ailleurs, lorsqu'on déguste en même temps le même cépage produit sur le même terroir, vinifié de la même manière, mais avec ou sans porte-greffe, on perçoit une différence. On pourrait dire qu'il y a davantage de finesse, de complexité dans le vin issu de vignes franches.
Et ça ne donne pas d'idée aux autres viticulteurs.
Mais si, mais évidemment, le risque est énorme. Il y a aujourd'hui une association qui s'est créée pour défendre et faire octroyer un label à ces vignes sans phylloxéra, ces vignobles à part. On en trouve en Europe plus d'une dizaine de projets, c'est passionnant à suivre. Mais comme je vous l'ai dit, le phylloxéra étant toujours vivant, ben vous pouvez du jour au lendemain perdre votre vigne.
C'est acquis tout double. Merci beaucoup, Olivier Pouls.
Bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et la suite de votre journée spéciale sur Europe 1.
Journée spéciale, pouvoir d'achat, c'est notre préoccupation numéro 1. Et après le logement, on va se pencher dans une dizaine de minutes sur un autre gros poste de dépense, le carburant. C'est simple, vous l'avez remarqué, les prix à la pompe n'ont jamais été aussi élevés. 1,67€ en moyenne le litre de gazole, 1,70€ celui de sans-plomb 95, c'est inédit. Et ça pèse lourd sur nos budgets. La question à présent, c'est de savoir jusqu'à quand les prix vont-ils continuer à flamber ou à l'inverse revenir à la raison dans les semaines qui viennent? Autant de questions et de réponses à venir avec un grand spécialiste des matières premières, Philippe Chalmin, qui sera notre invité à 6h10. On écoutera Omblin ensuite votre partition.
Janet Jackson, l'indépendante qui a réussi l'exploit de s'extraire du clan familial. Retour sur les premiers albums qui lui ont permis de se faire un prénom, Janet Jackson, dans 20 minutes.
Son prénom Anissa, son nom Adadi,
yes.
Sa fonction météo.
Horlogiste, horologue.
Comment ça va, Anissa?
Annonceuse de bonnes nouvelles.
Voilà.
Écoutez, ça va moyennement, parce que la situation n'évolue pas du tout. On est bloqué là en France avec cet anticyclone, donc on a toujours le même scénario. C'est-à-dire qu'au sud de la Loire, nous avons des nuages bas ce matin sur le Val-de-Saône et au bord de la Garonne. Des nuages et des brouillards qui auront du mal à se dissiper, mais partout ailleurs. Sur le sud, c'est du grand et beau soleil. Et une fois de plus, c'est en montagne hein, et sur le pourtour méditerranéen que la journée sera la plus belle. Et quand je vous dis la plus belle, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que c'est un soleil radieux dans un ciel sans aucun nuage. Au nord de la Loire, même scénario encore. Un ciel très couvert, très gris, avec des brouillards givrants ce matin. Un ciel qui ne va pas se dégager dans la journée. Et cet après-midi, en plus de ça, au nord de la Seine, on a l'arrivée d'une petite perturbation avec des averses. Moins 9 à Brive ce matin, 0 à Biarritz, 2 degrés à Paris, 6 à Bastia. Cet après-midi, nous aurons 1 degré à Dijon et 15 à Perpignan. C'est une fois de plus le grand écart.
Le grand écart, signé Anissa Adadi. Merci beaucoup, Anissa. Vous écoutez Europe 1, vous faites bien. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le jeudi 27 janvier. Et il est 6h. Un Français sur 4 a du mal à payer sa facture d'énergie. Et vous, journée spéciale pouvoir d'achat sur Europe 1. Gaz, fuel, électricité, les prix du chauffage s'envolent comme ceux du carburant. Dans ce journal, des conseils pour réduire vos dépenses. À quand un vaccin spécial Omicron? Les laboratoires Moderna et Pfizer annoncent le début des essais cliniques. En France, le pic de la vague se fait attendre avec 15 millions de malades depuis le début du mois. Et puis au Palais Garnier, on dépoussière l'œuvre d'un certain Mozart, l'opéra Les Noces du Figaro de retour sur scène. Avec une mise en scène, vous allez le voir, détonnante.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Est-ce que vous aussi vous avez baissé votre thermostat? C'est le choix de 6 Français sur 10 pour limiter la facture de chauffage. Elle absorbe même 80% de votre budget dédié à l'énergie. Journée spéciale pouvoir d'achat sur Europe 1. Aurélien Fleureau, qu'on ait choisi l'électricité, le gaz ou le fuel, personne n'est épargné par la flambée des prix.
Effectivement, les hausses sont spectaculaires pour ceux qui se chauffent au fioul. Remplir sa cuve vous coûtait 1 500€ il y a un an, c'est désormais 2 300€. Le chauffage au bois reste une option moins onéreuse, même si, là aussi, des ventes en hausse de 30% en un an ont fait gonfler la facture de ceux qui ont un poêle à granuler. Si chez vous c'est du gaz, la facture annuelle a grimpé de 45% entre janvier et octobre 2021. Et concernant l'électricité, la tendance est à la hausse depuis 10 ans, mais cette dynamique s'accélère nettement depuis 2019. 19. Les mesures prises par le gouvernement, c'est vrai, permettent de contenir ces hausses, mais parmi les rares solutions pour essayer de faire baisser la facture, il y a une meilleure maîtrise de votre consommation, rappelle Antoine Autier, responsable des études à l'UFC Que Choisir.
Parfois, on ne se rend pas compte que finalement, en baissant un petit peu le chauffage, on n'aura pas nécessairement plus froid, mais en réalité, l'économie sur la facture pourrait être importante, parce que quand on regarde le chauffage et l'eau chaude, ça représente de l'ordre de 2/3 de la facture d'électricité. Donc on voit bien que ce sont quand même des postes importants pour avoir des économies.
Et selon l'ADEME, baisser d'un seul degré son chauffage permet de réduire la facture de 5 à 10%.
L'éclairage d'Aurélien Fleurot.
A noter que le groupe Casino annonce ce matin dans Le Parisien Aujourd'hui en France le gel du prix de ses bouteilles de gaz, tarif qui s'appliquera dès aujourd'hui et ce jusqu'au 31 mars.
L'autre dépense qui plombe votre budget en ce moment, c'est votre plein d'essence. 1,67€ le litre de gasoil en moyenne, 1,70€ pour le sans-plomb 95, des tarifs plus élevés encore qu'à l'époque des Gilets jaunes en 2018.
Et pour ne plus faire la grimace à la pompe, certains ont opté pour une solution.
Et elle s'appelle Superéthanol, fabriqué en partie à base de produits issus de l'agriculture comme la betterave. L'année dernière, les ventes ont augmenté de plus de 30%. Son prix, imbattable, 0,75 centimes le litre, à condition d'installer un boîtier sur son véhicule. Illustration dans ce garage près de Lyon avec notre correspondant Jean-Luc Boujon.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 demandes de devis depuis vendredi matin.
Voilà désormais le quotidien de Patrick Gaillet de l'atelier électromobile de Vénissieux, faire des devis et installer des boîtiers de conversion au bioéthanol.
Le boîtier, c'est ça. C'est couplé avec un capteur de carburant qui permet d'analyser le pourcentage d'essence et de bioéthanol dans le réservoir. Et après, c'est juste un circuit électrique qui dérive l'ordre des injecteurs. Ça vaut le coup. Quelqu'un qui fait 20 000 km par an, il gagne plus de 1 000 € par an de carburant.
L'installation du boîtier revient à 1 200 € tout de même, mais on s'y retrouve vite. Explique Xavier qui vient de faire équiper sa Peugeot 308 essence.
Mon plein actuellement il est aux alentours de 60€, là je le fais aux alentours de 30€. C'est divisé par deux. Ça vite rentabilise. En un an ou deux, on récupère le surcoût généré par l'installation.
Et il existe même une autre solution, encore moins chère, environ 600€, pour convertir sa voiture au bioéthanol, modifier les réglages moteurs via l'électronique. C'est la spécialité de Romain Serron de l'atelier Puissance Injection à Bénaud dans l'Ain.
Nous on fait un simple réglage sans changer le logiciel et après ce réglage, le véhicule peut tout aussi bien rouler à l'essence qu'à l'éthanol. Et du coup, on est submergé d'appels, on peut avoir 50 appels par jour relatifs à ces conversions.
Des dispositifs parfaitement légaux et qui peuvent générer de sérieuses économies. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
6 heures passées de 4 minutes sur Europe 1 et cette statistique assez effrayante, je dois dire. Près de 15 millions de Français ont été infectés par le Covid depuis le début du mois de janvier. C'est presque autant que les 4 précédentes vagues réunies.
Oui, et la fusée Omicron pulvérise tous les records en France, désormais vice-championne d'Europe des contaminations. Alors on le sait, les vaccins sont moins efficaces contre la transmission de ce variant. À quand une dose dédiée spécifiquement à Omicron? Justement, les laboratoires y travaillent. Moderna a annoncé hier soir le début de ses tests cliniques. Le groupe Pfizer, lui, démarre à la fin du mois. Yasmina Katou, quel est le protocole de ces premiers essais?
Eh bien, 1420 candidats en bonne santé, âgés de 18 à 55 ans, ont été recrutés pour participer à cet essai. Ils seront divisés en 3 groupes. Le premier, d'environ 600 patients qui ont reçu 2 doses du vaccin Pfizer il y a entre 3 et 6 mois. Eux recevront 1 ou 2 injections du nouveau sérum contre Omicron. Dans le deuxième groupe, les 600 personnes ont toutes leurs doses de rappel. Une partie recevra le vaccin avec la souche Omicron. L'autre aura le droit à une 4e dose du vaccin actuel. Il s'agit de voir si le nouveau vaccin provoque une réponse immunitaire plus forte contre Omicron qu'une simple dose supplémentaire. Enfin, le troisième groupe rassemble 200 candidats non vaccinés. 3 doses du nouveau sérum leur seront injectées. Grâce à ces différents cas de figure, Pfizer pourra déterminer l'efficacité de cette nouvelle formule en primo-vaccination, mais aussi en complément à un schéma vaccinal complet. Une demande d'autorisation de mise sur le marché pourrait être demandée par le laboratoire américain en mars prochain.
L'éclairage de Yasmina Katou. En politique, coup d'envoi de la primaire populaire à 10h ce matin. Les près de 470 000 inscrits pourront noter les participants jusqu'à dimanche 17h. Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et même Christiane Taubira, même si les 3 premiers ont annoncé qu'ils ne prendraient pas en compte le résultat, quel qu'il soit. L'homme ou la femme politique qui aura recueilli le plus de mentions favorables sera élu vainqueur.
On en vient à cette œuvre maîtresse de Mozart, revisitée version 21e siècle, les notes de Figaro sur les planches de l'Opéra Garnier jusqu'au 18 février.
Et la mise en scène est signée Nettia Jones avec sur scène et en coulisses plusieurs centaines de personnes de l'orchestre au décor en passant par les costumes. Une troupe avec une jeune chanteuse française, elle s'appelle Léa Desandré, elle a 29 ans et une carrière qui décolle. Rencontre avec Lord d'Autriche.
Enfant, Léa Desandré chantait dans les chœurs de l'Opéra de Paris. À 12 ans, elle a su qu'elle voulait devenir chanteuse lyrique. Aujourd'hui, dans Les Noces de Figaro, elle joue le rôle de Chérubin, un adolescent beau, naïf et insolent qui découvre tous les stades émotionnels de l'amour. Un opéra mythique de Mozart que Léa Desandré chante dans la salle exceptionnelle de l'Opéra Garnier.
C'est très émouvant d'être ici, de parcourir les couloirs, de croiser les danseurs. C'est un petit peu comme dans un rêve et c'est exactement comme on se l'imagine. Le chant, c'est un instrument magique parce que c'est un instrument qu'on n'explique pas, qu'on ne voit pas. On chante que par les sensations. Les Noces de Figaro, c'est un opéra emblématique et qui est vraiment facile d'accès. Pour le public, la musique de Mozart, c'est une musique qui semble extrêmement simple lorsqu'on l'écoute, alors qu'elle est d'une grande complexité. Mais les choses les plus simples sont souvent les plus difficiles à faire. Et on rit énormément.
Selon le chef d'orchestre Gustavo Dudamel, c'est l'œuvre d'opéra la plus géniale qui existe. La musique de Mozart est parfois virtuose, mais la vraie difficulté est de retrouver le naturel et la simplicité que l'on trouve presque à chaque page dans ses partitions.
Voilà le reportage de Laure d'Autriche. Et d'ailleurs, le Covid qui est partout, même à l'Opéra Garnier, puisque je viens de lire que la représentation de ce soir est annulée à cause de trop grand nombre de cas dans la troupe.
Voilà. Bon, eh ben écoutez, on patientera quelques 7 jours, hein, c'est ça que...
Exactement,
que
7 jours d'isolement.
Que tout c'est, voilà, pour l'Opéra Garnier. Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal complet.
Il est 6h07 et on passe au sport.
Toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange. Et Martin, on commence avec l'exploit de l'équipe de France de handball hier soir.
Oui, les Bleus ont renversé le Danemark après un match complètement dingue, hein, mené de 5 buts à la mi-temps, apathique pendant plus de 45 minutes. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic ont arraché la victoire dans les ultimes secondes. Score final 30-29. Les Bleus verront les demi-finales, un acte fondateur pour le capitaine Valentin Porte.
J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est né ce soir. Beaucoup nous voyaient perdre rapidement parce qu'on avait des blessés, on avait des trucs, nous voyaient... Et peut-être une déception de l'Euro, mais nous, on y a toujours cru. C'est le premier objectif qui était donc de se qualifier pour le dernier carré. Maintenant, on va essayer de rouler sur tout le monde.
Valentin Porte au micro de nos confrères de beIN Sport. La demi-finale, ça sera contre la Suède demain.
J-7 avant les Jeux de Pékin et on connaît depuis hier les porte-drapeaux de la délégation tricolore.
Oui, ça sera les skieurs Tessa Worley, double championne du monde de géant, et Kevin Roland, médaillé de bronze en halfpipe en 2014, qui mèneront les athlètes bleus lors de la cérémonie d'ouverture vendredi prochain. Une immense fierté pour Kevin Roland, passé tout près du drame après une terrible chute en 2019.
Je repense à cette phrase que ce médecin m'a dit face à moi quand j'étais allongé sur ce lit et qui m'a dit « va falloir penser à faire quelque chose d'autre que du ski, monsieur ». Voilà, là je suis aux Jeux Olympiques et dire que c'est une victoire, c'est bizarre, mais je ne peux pas dire ça autrement.
À noter que c'est le biathlète Benjamin Davier qui mènera la délégation paralympique.
On passe au football, Martin, et ça va mieux à Saint-Étienne.
Bonjour, c'est Fabrice Lafitte, notre réalisateur.
Supporter des Verts.
Mais les Verts ont battu Angers hier 1-0. Ils mettent ainsi fin à une terrible série de 7 défaites en championnat et reviennent surtout à 5 points de Bordeaux, 17e et premier non relégable. Mais pas de quoi s'enflammer, écoutez le coach Pascal Duprat.
Je suis aussi comptable à mes heures. Et en termes de comptabilité, on est dans le rouge. C'est une victoire, une première. Il nous en faut encore beaucoup et on a... la ferme intention d'aller les chercher.
Pascal Duprat au micro de Loïc Folio. Et puis un mot de la CAN et deux nouveaux favoris sortis hier au tir au but, la Côte d'Ivoire et le Mali. Qualification en revanche pour les quarts de finale de l'Égypte et de la Guinée équatoriale.
On termine avec un mot de l'Open d'Australie, Martin.
Oui, et demi-finale dames ce matin. La numéro 1 mondiale Ashley Barty affronte l'américaine Madison Keys, tandis que l'autre américaine Danielle Collins se frottera à la polonaise, Iga Swiatek.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Stop ou encore, les prix à la pompe vont-ils continuer à flambé. Réponse dans deux minutes avec Philippe Chalmin, spécialiste des matières premières. Europe 1 se penche toute la journée sur votre pouvoir d'achat. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h12. Et sur Europe 1, on poursuit notre journée spéciale pouvoir d'achat avec votre invité Julien, qui est professeur à l'Université Paris-Dauphine, directeur du rapport Cyclope sur les marchés mondiaux des matières premières.
Bonjour Philippe Chalmin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. 1,67€, c'est le prix moyen ce matin en France du litre de gazole. C'est du jamais vu. Idem pour le samplon 95 qui culmine à 1,70€, soit 11 centimes de plus en un mois. Quand est-ce que ça va s'arrêter ?
Écoutez, certainement pas dans les 2-3 jours à venir, dans la mesure où le marché du pétrole a... touché un petit peu un sommet, a tutoyé vendredi dernier presque les $90 le baril. Mmh. Et on sait que il faut entre une semaine et 10 jours pour que la totalité des hausses du pétrole se retrouve dans la hausse des carburants. Donc malheureusement, ça risque d'augmenter encore, je dirais mécaniquement, dans les quelques jours à venir. Ensuite, c'est une autre question. Mon opinion personnelle est que, sauf, bien entendu, catastrophe géopolitique, le prix a probablement atteint une sorte de sommet et devrait baisser dans les semaines à venir. Par contre, je ne vous le cache pas, il y a des gens qui pensent exactement l'inverse.
On va y revenir, mais pour quelles raisons pensez-vous que dans les semaines à venir, on pourrait avoir une légère baisse ?
Ben, tout simplement parce que on a eu quand même une très forte hausse depuis quelques semaines. Les prix sont à des niveaux très élevés et on va avoir très certainement une réaction au niveau de l'offre. Il faut savoir quand même que en dehors des pays de l'OPEP et de la Russie, il y a d'autres producteurs. Notamment, moi je m'attends à un rebond quand même assez fort de la production américaine, ce qu'on appelle le pétrole de schiste. Je m'attends aussi à des hausses de production dans des pays comme le Brésil, comme la Guyane, etc. Et donc, il me semble, mais c'est un avis qui est d'ailleurs partagé quand même par des analystes. Voyez, je sors aujourd'hui l'ensemble des prévisions que Cyclope fait sur les marchés des matières premières en 2022. Notre scénario est celui d'un prix moyen du baril de pétrole en 2022 de $75. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est dans la zone des 87 ou 88. Si je prends un prix moyen à $75 en 2022, ça veut dire en clair que j'anticipe quand même plutôt une baisse des prix et donc un équilibre dans cette zone.
Une baisse des prix de quelques centimes ou de quelques dizaines de centimes ? Parce que ce que vivent les Français depuis un an maintenant, c'est un plein qui leur coûte 12 euros de plus pour le gazole, 13 euros de plus pour le sans-plomb.
Je l'entends bien, mais alors là, ne rêvons pas. Je vous propose quelques centimes, quelques dizaines de centimes, il ne faut pas quand même rêver. D'autant plus que, n'oubliez pas, que quand vous achetez de l'essence ou du diesel, vous payez grossièrement 60% d'impôts.
Oui, donc, alors ça, on va y revenir.
Tomber. Donc je ne joue pratiquement, le prix ne joue, enfin l'évolution du prix du baril exprimé en dollars, car il ne faut pas oublier aussi l'impact des variations monétaires aussi, mais ça ne joue que sur 40%. Donc ça a d'ailleurs un tout petit avantage, c'est que si jamais, parce qu'il y a quand même, il peut y avoir un scénario noir. Imaginons.
Le scénario noir, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine, c'est ça ?
Le scénario, effectivement, à court terme, c'est vraiment le scénario noir. À ce moment-là, ça a un impact direct sur le prix du gaz. Et qu'on le veuille ou non, même s'il n'y a pas d'impact direct sur le pétrole sera pris dans le mouvement et on passera assez facilement les $100 le baril. Je vous signale quand même que nous nous focalisons tous, puisque vous discutez pouvoir d'achat aujourd'hui, tout le monde se focalise sur le prix du carburant, parce que c'est finalement ce que nous vivons au quotidien. La situation est bien pire si je regarde le prix du gaz naturel.
Oui, bien
sûr. Le gaz naturel aujourd'hui, ça vaut deux fois plus cher que le pétrole, et ça a un impact direct sur le prix de l'électricité. Donc c'est peut-être là que les risques sur le pouvoir d'achat sont le plus grands, beaucoup plus que sur ces carburants, mais qui nous obsèdent parce que tous les jours ou toutes les semaines, on va à la pompe.
Philippe Chalmin, vous le disiez à l'instant, le prix du baril de pétrole est actuellement d'un peu moins de $90 sur les marchés. Ça vaut pour le WTI comme pour le Brent. C'est très élevé, $90, on est d'accord, mais on reste loin des sommets à plus de $140 atteints lors de la crise financière de 2008. Or, j'ai regardé par pure curiosité, combien ont payé notre carburant à cette époque-là, au plus fort de la crise. Résultat, 20 centimes de moins en moyenne par litre, 1,45 € pour le gazole. Là, on était vraiment au plus fort, hein, c'est-à-dire à plus de $140 le prix du baril. Ça veut dire qu'entre 2008 et aujourd'hui, les taxes ont énormément augmenté.
Alors, les taxes ont augmenté. Maintenant, vous ne prenez pas en compte un paramètre qui est le paramètre monétaire. Il ne faut pas oublier que À cette époque, nous avions un euro qui était relativement fort. On était, dans le rapport euro-dollar, plutôt dans la zone des 1,30. On s'en plaignait d'ailleurs, parce qu'on trouvait que cet euro fort handicapait nos exportations. Aujourd'hui, nous avons plutôt un euro faible, et c'est bien pour les exportations, mais bien entendu, ça nous fait payer plus cher nos importations. Donc ça, c'est un élément d'explication. L'autre élément, vous avez raison, c'est que il y a eu quand même sur cette période un alourdissement de la fiscalité. Alors à la fois un alourdissement global quand on a changé de la TIPP à la TICPE, et puis quand même des alourdissements spécifiques, notamment dans l'écart entre le diesel et l'essence. Ça c'est vrai. Maintenant, je vous signale que la fiscalité n'a absolument pas changé depuis 4 ans, depuis le début de la crise des Gilets jaunes. On n'y a pas touché. Et rappelons quand même, que c'est un peu cruel, que lorsque nous étions au mois de mai 2020, alors d'accord, c'était au cœur de la crise, le baril est descendu jusqu'à 15 dollars, eh bien, nous étions à 1,25 €. Ça, vous pouvez toujours rêver.
Merci beaucoup, on peut rêver, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Chalmin de nous avoir éclairé ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine et directeur du rapport Cyclope, la bible de l'analyse des marchés mondiaux de matières premières, rapport dont vous nous l'avez dit en début d'interview, dont vous allez dévoiler à la mi-journée la nouvelle mouture, les prévisions de 2022. Encore merci et à bientôt sur Europe 1, Philippe Chalmin.
Merci.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
À 6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
En cette journée consacrée au pouvoir d'achat sur Europe 1, 170 rassemblements et manifestations organisés dans toute la France. Aujourd'hui, à l'appel des syndicats et organisations de jeunesse pour réclamer des hausses de salaire dans un contexte de forte inflation. Une aide exceptionnelle sera par ailleurs accordée aux indépendants et auto-entrepreneurs touchés par les restrictions sanitaires. Annonce hier de Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre des PME. Elle concernera notamment les secteurs de l'hôtellerie-restauration, les DJ ou encore le voyage. À l'Euro de handball, belle remontada des Bleus hier soir. Menés pendant plus de 50 minutes, ils ont remonté la pente pour battre le Danemark 30-29. Ils sont qualifiés pour la demi-finale demain 20h30 face à la Suède.
On termine en bien, comme chaque matin, avec votre partition. Demain, à la télévision, les Américains découvriront un documentaire événement sur Janet Jackson.
Un film de 4 heures, Julien, qui a nécessité 5 ans de préparation. Janet Jackson, c'est l'histoire d'une chanteuse qui s'est battue pour être totalement indépendante.
Dans la famille Jackson, j'appelle donc la petite dernière.
Oui, dans l'ombre de ses frères, Janet commence sa carrière dans des émissions à la télé. Comme pour tous les protagonistes de la saga Jackson, le père, Joe, veille au grain et prend toutes les décisions. La chanteuse parvient à s'échapper du giron familial, mais au profit d'un mariage raté avec le musicien James DeBarge. Janet Jackson subit quotidiennement la violence de ce compagnon addict à la cocaïne. L'union est annulée au bout d'un an.
Sa planche de salut, elle la doit à un duo de producteurs.
Oui, deux anciens membres du groupe funk The Time, connus pour avoir travaillé avec Prince. En ce milieu des années 80, Jimmy Jam et Terry Lewis sont en train de révolutionner la musique soul, R&B et funk.
Son troisième album, Control, devient le succès de l'année 86.
Oui, un disque bien dans son époque. On l'entend façonné après plusieurs mois de travail par les magiciens Jimmy Jam et Terry Lewis. Control impose la marque de fabrique Janet Jackson. Et à l'instar de son frère Michael, elle apporte un soin tout particulier à l'esthétique de ses clips et aux chorégraphies.
Janet Jackson profite de ce tremplin et de sa notoriété grandissante pour récidiver.
Oui, en 1989, elle a 23 ans et retourne en studio pour mettre en chantier Rhythm Nation 1814 pendant les sessions d'enregistrement. La télévision, restée allumée, diffuse des images de l'élection de George Bush père, d'une fusillade dans une école maternelle en Californie et du tremblement de terre de San Francisco, des images qui vont imprégner ce nouvel album.
Et une fois de plus, elle se démarque du clan Jackson.
Oui, bien trop frileux lorsqu'il est question de sujets épineux. La chanteuse s'engage. Elle s'engage contre la violence, contre le racisme, pour l'éducation des jeunes filles et pour plus de justice sociale. Elle enfonce le clou avec l'album suivant. Janet Jackson participe au début des années 90 au lancement du mouvement féministe dans la pop musique. The Way Love Goes, extrait de l'album Janet de 1993. Janet, c'est aussi le nom de ce documentaire en deux parties sur Janet Jackson qui sera diffusé demain à la télévision américaine sur la chaîne Lifetime. On Merci. Espère le voir en France bientôt.
Bah oui.
Pas de date pour l'instant.
Ça, c'est certain que ce genre de documentaire va être acheté illico presto par une chaîne française. Merci beaucoup, Omblin. Votre matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27, merci d'écouter Europe 1, journée spéciale consacrée au pouvoir d'achat qui se poursuit.
Avec Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Ambline.
Bonjour.